C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Bonjour, c'est Charles Cécile. Le conte, c'est un art de la relation. Un art politique, écologique, poétique, vivant, c'est aussi une matière d'étude, à la croisée de plusieurs disciplines, l'histoire, l'anthropologie, la littérature, etc. Le conte, ça se compte, mais ça s'étudie aussi. Inès Casalas est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université Paris-Cité. Elle a consacré sa thèse à la mémoire des épopées dans le roman européen contemporain, en explorant les liens entre histoire familiale et histoire collective. Ses recherches se sont ensuite élargies aux contes et aux mythes qu'elle interroge dans toutes leurs dimensions. Les rapports entre anthropologie et littérature, les circulations entre oralité et écriture, les enjeux politiques, éthiques et écologiques du récit. Pour cette émission, direction Paris, ou plutôt sa proche banlieue, du côté du Kremlin-Bicêtre. Le micro est tenu cette fois-ci par la conteuse Karine Mazel.
I still have a dream.
Casalas me reçoit dans son bureau à l'université Paris-Cité où elle enseigne la littérature comparée.
Moi, ce que je te propose, c'est de te présenter.
La plupart du temps, j'y suis enseignante-chercheuse en littérature comparée. La littérature comparée, c'est cette discipline étrange et stimulante où on ne se restreint pas au corpus de langue française, c'est-à-dire qu'on envisage la littérature comme un phénomène plurilingue, comme un phénomène, voilà, des textes qui circulent en traduction, qui circulent en différentes langues. Et donc, concrètement, on part d'une question, par exemple l'écriture du désir, de la honte, de la mémoire historique. Ensuite, on choisit plusieurs œuvres d'horizons différents qui évoquent cette question, et puis on regarde comment chacune l'écrit, la pense. Donc ça, c'est vraiment la dynamique principale. En gros, l'enjeu, c'est de sortir du panthéon hexagonal et d'envisager la littérature comme un phénomène profondément plurilingue, transculturel. Mais la dynamique de la comparaison ne s'arrête pas là, puisque en littérature comparée, on compare aussi les textes avec d'autres arts, d'autres langages artistiques, la peinture, le cinéma, la musique. Et oui, et enfin, pour interpréter les œuvres littéraires, on croise aussi les disciplines, notamment l'histoire, la philosophie ou l'anthropologie, par exemple. C'est l'anthropologie, notamment l'anthropologie culturelle, qui amène à s'intéresser à la littérature orale. Et si on est toujours dans une cartographie universitaire, il se trouve qu'à Paris 7, devenue Paris Cité, il y avait Florence Dupont qui a lancé l'ethnopoétique, qui est cette cette approche poétique et anthropologique des littératures orales, du corps, de la voix, voilà, de ne pas fétichiser l'écrit, le texte.
Voilà, ça donne un peu justement la cartographie. J'aimerais qu'on s'en éloigne de cette cartographie universitaire, mais quand même, avant ça, dire que toi, dans ce cursus, on dit cursus, dans ce module d'ethnopoétique, tu enseignes le conte.
Oui, alors c'est disons dans la licence de lettres, voilà, et sciences humaines, mais aussi dans la licence de lettres et arts, on propose un enseignement sur les contes. Alors cela fait très longtemps qu'il existe, puisque c'était Bernadette Bricou qui l'a lancé et qui l'a longtemps assuré. Et la vie a fait que j'ai pris le relais.
Pour l'édition 2025 du festival Héroïne de sept lieux, organisé par la compagnie La Lune Rousse, sous la direction artistique de Anne-Gaëlle Goduchot, Inès Casalas, marraine du festival, écrivait « Backlash, retour de bâton ». C'est ainsi qu'on appelle couramment les reculs observés ici et là en matière de droits des femmes et des personnes opprimées. Dans un contexte où l'ampleur des violences sexistes, sexuelles et racistes ne cesse d'être documentée, j'aime réactiver, pour nous donner des forces, d'autres images venues des contes. Le bâton de marche, par exemple, que les héroïnes usent pendant leur long périple à travers des contrées hostiles. Ou la baguette des fées qui condense les pouvoirs et accompagne ceux de la parole. Le bâton de sagesse sur lequel s'appuient les vieilles à la croisée des chemins. C'est que pour traverser la colère et la peur, pour nourrir l'endurance, comme pour faire mûrir la liberté, les contes sont là. C'est pas pour dire, en compagnie de Inès Casalas.
Ton intérêt personnel pour les contes, avant de faire se rejoindre, converger l'intérêt personnel et puis l'intérêt professionnel, comment ça t'est venu? Quelle est ton histoire avec les contes de tradition orale?
Moi, j'ai grandi dans une maison sans télé, où il y avait des instruments de musique qui venaient du monde entier, et des livres, beaucoup de livres, qui venaient du monde entier. Et parmi ces livres, il y avait beaucoup de recueils de contes, et beaucoup d'anthologies. Je me souviens notamment de la collection... Légendes et contes du monde entier chez Grund, qui m'a beaucoup marquée. Et donc, mes parents avaient comme ça, petit à petit, constitué une bibliothèque où il y avait des contes du Japon, d'Océanie, de Scandinavie. Donc, cette idée que le monde arrivait dans la maison par le biais des contes était vraiment forte. Et c'était des contes qui emmenaient ailleurs, quoi. À la fois par leur provenance, par la voix de mes parents aussi, qui n'étaient pas... Disons que la mélodie de leur voix racontant ces contes n'était pas la même que lorsqu'ils me racontaient « Timothée va à l'école » ou « que sais-je ». Et ouais, donc ça, je sentais comme un ailleurs dans leur voix partageant ces récits. Et puis, il y avait aussi un rapport à l'image, parce que, notamment dans la collection Grund, là, je crois qu'un de mes... Un de mes tomes fétiches, c'était celui des contes tziganes, dont les illustrations m'ont vraiment fasciné. Et puis il y avait les contes russes qui ont occupé une grande, grande place. Je pense que j'ai passé des heures à rêver sur les illustrations de Bilibine, à la fois ces créatures, le loup gris, l'oiseau de feu, Baba Yaga, bien sûr. mais aussi des détails, les brocarts des robes avec parfois de l'argenté qui venait, voilà. Les lignes de bouleaux blanches qui se dessinaient dans les images de forêts crépusculaires, voilà, de forêts assez inquiétantes. Voilà, donc c'est vraiment par ces contes apparemment lointains que j'ai eu ces premiers liens avec la littérature orale. Et ce qui est aussi complémentaire, paradoxal mais complémentaire, c'est que il y avait aussi beaucoup de contes très proches, parce que ma grand-mère habitait dans le Gers, donc l'été, j'ai passé beaucoup d'été dans le Gers, et il y avait des contes de Gascogne recueillis par le folkloriste Jean-François Bladet, et illustrés par Pertuiset, avec des images en noir et blanc qui étaient très 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 fortes. Et puis bien sûr, alors oui, quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée, ce sont les bandes dessinées faites par Pertuiset à partir de contes recueillis dans toutes les Pyrénées. Ça s'appelle les Chants de Pyrène. Et je crois que j'ai relu des centaines, voire des milliers de fois ces bandes dessinées-là qui racontent l'histoire. Ça se passe au 19e siècle et c'est l'histoire d'un fils de notaire palois. Donc moi j'ai grandi dans les Pyrénées-Atlantiques, donc c'était très très proche pour moi, et qui décide de façon assez excentrique de traverser les Pyrénées avant de reprendre l'étude paternelle et de s'y enfermer. Simplement, il ne les traverse pas du nord au sud, comme c'était assez courant, mais il décide de les traverser d'ouest en est. Et pour cela, il prend un guide de la vallée d'Ossau, qui était aussi une vallée que je connaissais très bien, qui est une vallée que je continue d'arpenter régulièrement. Et donc, ce personnage de notaire est passionné par les légendes, les contes, et les histoires, les récits historiques aussi. Et donc, tous les deux traversent les Pyrénées, et à chaque fois, ils rencontrent des gens, des gens de milieux sociaux différents, qui leur racontent des contes et des légendes. Et ça, ça a été très, très important. Parce que ces contes, ils me parlaient de l'ici, vraiment de l'ici dans lequel je grandissais, mais en y injectant de l'ailleurs, c'est-à-dire que ça accompagnait ma perception de ces lieux. Par exemple, les montagnes, quand on est enfant, y a une grandeur cosmique, il y a une... Je sais pas, c'est minéral, c'est très impressionnant. Et donc ça ne m'étonnait pas du tout que ce soit le tombeau de Pyrène qui ait cette ampleur comme ça, cosmogonique, mythologique. Voilà, je me souviens aussi des cromlechs, des cercles de pierre levée. Et alors pour moi, c'était évident que ces lieux étaient des lieux de rencontre, de sabbat, de fées et de sorcières. Les sources aussi. Ou même quand on n'allait pas en montagne, mais qu'on allait juste dans les collines et qu'on se promenait, qu'on voyait les talus, les racines des arbres avec des mousses, certaines très régulières, d'autres étoilées. Et alors mes parents me disaient, ce sont les maisons des lutins. Voilà. Et donc je sais pas si je peux dire que je croyais aux fées, aux lutins, etc. Mais je dirais plutôt que pour moi, c'était évident que ces lieux étaient habités. Voilà, ils étaient habités et pas seulement par des humains. Enfin, c'était absolument pas un décor de randonnée, quoi. Voilà, donc ces contes, je dirais qu'à la fois, il y en avait qui venaient de très loin, mais qui résonnaient vraiment avec l'ici. Par exemple, dans Les Mille et Une Nuits... un conte sur une amitié trahie entre deux hommes, ça pouvait vraiment résonner avec ce qui m'arrivait dans la cour de récréation. Et puis il y avait ces contes qui parlaient de lieux très proches, mais qui leur donnaient une dimension autre, plus grande, plus mystérieuse, plus onirique.
Inès Casalas, au micro de Karine Mazel.
Qu'est-ce que vous pouvez, par rapport au conte Tzigane, parce qu'il y avait beaucoup de contes, j'ai entendu, dans cette bibliothèque, qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré? C'était plutôt les illustrations, vous disiez, ou il y avait quelque chose dans certains contes? Est-ce que vous pouvez évoquer un conte, par exemple, qui vous aurait marqué?
Je pense que ma fascination venait des illustrations qui étaient magnifiques. Elle venait aussi de ce que mon père collectait de la musique chez des manouches qui vivaient à Pau. Alors, les manouches et les tziganes, ce sont des groupes sociaux culturellement très différents. Mais il y avait comme ça... Oui, je pense que c'était quand même relié pour moi. Et alors, ces contes, je pense qu'il y a peut-être deux choses qui m'ont marqué. Il y a d'abord le rapport à la ruse, c'est-à-dire je me souviens notamment d'un conte sur un charbonnier qui arrive à duper un diable, à travailler dans sa carrière et à faire croire qu'il est beaucoup plus puissant que le diable, notamment en serrant des fromages de chèvre dans ses mains. Le diable, lui, peut réduire les rochers en poussière, mais le tzigane est encore plus fort parce qu'il peut en faire couler de l'eau. Et donc ça m'avait vraiment marqué. Et puis... Je crois qu'il y avait des personnages féminins qui m'ont marqué aussi, parce que... Oui, en fait, je crois que les contes de tradition orale n'ont pour moi jamais été la quintessence du patriarcat, comme on peut parfois l'entendre aujourd'hui, parce qu'il y avait des personnages féminins qui m'ont beaucoup marqué. Je connaissais les contes de Perrault, j'avais vu quelques Walt Disney, mais très peu. Je les avais vus au cinéma, et j'avais d'ailleurs été assez éblouie. Mais disons que les personnages féminins qui m'ont accompagnée étaient moins connus. Et alors, pour ce qui est des contes tziganes, il y avait notamment la princesse vampire. Le fait qu'il puisse y avoir de la destructivité chez une femme, de la négativité, de la violence... de la gourmandise, et pour moi cette princesse vampire c'était une figure très sensuelle. Je m'étais constituée une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça panthéon, mais en tout cas je pense qu'il y avait des figures qui m'accompagnaient, et dans les contes russes il y en avait beaucoup aussi. Il y avait Maria des Mers, la guerrière qui peut lever une armée, il y avait Vassilissa qui s'aventure dans la forêt, qui rencontre une figure d'initiatrice, qui est capable de rapporter la lumière dans un crâne. Voilà. Et puis aussi, j'ai été très marquée par la protagoniste et l'héroïne de La plume de Finistère Faucon. Alors, ce qui me fascinait, c'était quand mes parents me lisaient ce conte, c'était vraiment la litanie des répétitions, la musique des répétitions. Et alors j'adorais le moment où on disait que... Enfin, où elle disait elle-même, quand elle retrouve son bien-aimé qui a été drogué et endormi. Donc on a quand même une femme auprès d'un bel endormi. Et donc elle lui dit tout ce qu'elle a... Voilà, qu'elle a usé 3 paires de souliers de fer, qu'elle a usé 3 bâtons de fonte, qu'elle a traversé des... Oui, qu'elle a usé aussi...
Rongé 3 pains de pierre.
Voilà, qu'elle a rongé 3 pains de pierre, qu'elle a traversé des déserts arides, des forêts profondes, des montagnes, de hautes montagnes, pour arriver jusqu'à lui. Voilà, ça c'était aussi des figures importantes d'endurance féminine aussi.
À l'écoute de ces pas pour dire, où l'on découvre comment une des puissances du conte consiste à bâtir des ponts entre des espaces jugés parfois irréconciliables, comme par exemple l'espace privé famille et l'espace professionnel.
Donc pas de hasard à ce que tu sois finalement arrivé par des chemins de traverse, parce que tu n'y avais pas pensé initialement, si j'ai bien compris, à enseigner le conte à l'université. Est-ce que tu peux nous dire comment cette rencontre s'est faite, ou cette opportunité ?
Je pense que je n'avais jamais imaginé enseigner sur les contes un jour. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que pour moi, c'était ça relevait de l'intime. Voilà, de l'intime et de l'intimité familiale, mais ça n'était pas destiné à être présent dans une institution. Il y a une autre raison qui est peut-être plus propre à mon parcours d'étudiante en lettres modernes, c'est que je pense qu'inconsciemment, j'avais vraiment intériorisé une sorte de hiérarchie des genres littéraires. Et c'est aussi que j'étais complètement passionnée par des œuvres assez difficiles, assez rugueuses. Je parlais de l'éthos de l'endurance, mais c'est vrai que j'ai fait ma thèse sur quatre romanciers assez ardus. Thomas Bernhard, Claude Simon, Juan Bennett et Antonio Lobo Antunes. Et je travaillais sur la mémoire des épopées et des mythologies dans leur roman, notamment des mythologies nationales, et comment ils déconstruisaient ces grands récits à travers des romans familiaux, des histoires de famille qui, plutôt dysfonctionnelles, dirait-on aujourd'hui. Voilà, et comment les filiations héroïques, mythiques, voilà, étaient bouleversées par ces récits de famille. Et donc, pour moi, vraiment, ma mission d'enseignante chercheuse, c'était de partager des œuvres difficiles que les étudiantes et les étudiants ne liraient pas si elles n'étaient pas mises au programme d'un cours. Donc, je faisais cours sur Kafka, sur Joyce, sur Virginia Woolf, sur Proust, sur Beckett, sur Nathalie Sarraute, voilà, sur Marguerite Duras, bon, sur des auteurs et des autrices difficiles, ou sur des récits anonymes ou pas, des épopées apparentées, qui ont plein de liens avec les récits de tradition orale. Mais voilà, je faisais un cours sur l'Odyssée, sur l'Iliade, sur les Lusiades, enfin voilà, donc là c'est plutôt une œuvre très, très littéraire, mais voilà, donc il y avait pour moi, je pense que inconsciemment, j'avais corrélé la valeur d'une œuvre littéraire à sa complexité et à sa difficulté. Ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, Bernadette Bricout est partie à la retraite et tenait à ce que son enseignement sur les contes reste dans la maquette. Et il se trouve que parmi les collègues, à ce moment-là, personne n'a manifesté d'intérêt, n'a souhaité reprendre ce cours. Et moi, très timidement, j'ai dit « Ah, mais moi, je veux bien essayer !» Et je pense que ce qui a fait que j'ai surmonté à la fois ma timidité Et comment dire, mon autocensure d'universitaire n'ayant pas consacré sa thèse aux comptes et donc n'étant pas autorisée dans mon esprit à faire cours sur les comptes, eh bien, c'est que à ce moment-là de ma vie, je lisais beaucoup de contes et je racontais des contes à mes enfants qui étaient alors tout petits. Et je pense que j'ai eu besoin d'une, je dirais, d'une porosité heureuse entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que socialement, ce qui m'était renvoyé, c'était que universitaire rimait avec mauvaise mère, et que une femme qui aime beaucoup son métier serait un peu suspecte et serait finalement moins là pour ses enfants. Alors ça peut paraître très étonnant, parce que je veux dire, voilà, que des rengaines aussi moisies soient resservies dans les années 2010 à une enseignante chercheuse. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a été très renvoyé. Et pour moi, ça a été à la fois joyeux et apaisant de pouvoir instaurer, oui, j'ai parlé de porosité, la porosité, c'est quand ça respire, quoi, quand il y a de l'air qui passe. Eh bien oui, je pouvais dire à mes enfants, je vais faire cours sur tel compte demain, je leur montrais la brochure où il y avait des illustrations, à l'époque ils ne savaient pas encore lire, mais voilà. Et puis, alors ils me demandaient, ah mais alors c'est sur quelle version? Tu vas parler de quelle version du Petit Chaperon Rouge? Mais quelle version de Barbe Bleue? De quelle, voilà. Et, ouais, donc c'est... Je pense que si j'ai... Ouais, si j'ai dit oui, et si j'y suis allée, ça a été, ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de hasard, mais ça a été un moment assez rude, mais aussi assez riche de ma vie, où ça a été important pour moi que ça circule comme ça entre mon métier et ma vie.
Conte était regardé un peu de haut par les universitaires. On voyait bien l'importance de l'étude de la littérature orale, mais pour les instits et les enfants. Il restait une idée assez ancrée que cette oralité simple n'était pas un sujet d'étude bien sérieux. Inès Casalas y revient pour nous.
Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les enseignants ont dit pour dire, pour justifier le fait qu'ils ne voulaient pas reprendre ce cours? Ou qu'est-ce que vous imaginez qui a fait, s'ils n'ont rien exprimé, que finalement, vous étiez la seule? Il y avait combien de personnes?
Alors, bon, je ne vais peut-être pas... disons que c'était vraiment le cadre d'une réunion de service. Mmh. Je pense que les arguments entendus, c'était plutôt que voilà, moi j'ai déjà mon service complet, voilà. Et par ailleurs, depuis, j'ai réalisé que des collègues étaient intéressés par les contes, et notamment des collègues de théâtre. Mais je pense aussi, alors là je ne vais pas forcément parler des collègues de mon université, mais ce que j'entends beaucoup chez les universitaires, c'est une certaine condescendance, alors chez les universitaires de lettres, ce qu'on entend quand même beaucoup, c'est une certaine condescendance, à savoir que bon, bah, les contes, c'est bien gentil, mais ce serait surtout pour former de futurs instits, de futurs enseignants du primaire, à la rigueur du collège, mais que bon, ça n'aurait pas vraiment sa place en dehors de cet objectif professionnel, professionnalisant là. Et alors c'est une condescendance qu'il n'y a plus quand on parle avec des personnes qui travaillent sur l'intermédialité, c'est-à-dire sur la façon dont les contes circulent entre les médiums artistiques, les langages artistiques. Et je dois dire que les choses changent, parce que depuis quelques années, ça devient au contraire Y a vraiment, ça devient à la mode et ça devient important de travailler sur les contes. Il y a des programmes de recherche qui sont lancés sur à la fois la façon dont le conte circule donc entre les langages artistiques, mais aussi sur les littératures autochtones, sur la circulation entre littératures écrites, littératures orales. Voilà.
Bon, c'est comme si toi, tu faisais la synthèse. Tu es à un autre endroit que... uniquement l'approche anthropologique, uniquement l'approche intermédiale, c'est ça. Et il y a cette, en tout cas, quand il y a cette notion de littérature comparée, adaptée aux contes, dans le sens où, de fait, aussi, les contes peuvent être des objets de littérature comparée.
Tout à fait. C'est vrai que le geste comparatiste, il se nourrit complètement de la lecture rapprochée de contes. Et le fait qu'on... C'est-à-dire que oui, le conte commence à être présent dans les programmes d'agrégation, etc. Mais c'est souvent rapporté, évidemment, à des figures d'écrivains, voire d'écrivaines, quand on est un petit peu rock'n'roll. Mais ce qui est pour moi riche, c'est justement de comparer des contes de tradition orale et... des contes dits d'écrivains, c'est-à-dire des ethnocontes et des contes dits littéraires. Et en fait, ça amène à défaire des dichotomies qu'on a très ancrées inconsciemment dans la tête, dans le crâne, lorsqu'on fait des études de lettres. C'est-à-dire que la littérature est rapportée à l'objet livre, à une histoire littéraire, au canon des auteurs et des autrices légitimes. Et donc là, en fait, ça fait tout bouger d'un seul coup, c'est-à-dire que toutes les antinomies se dissipent, puisque, oui, la littérature orale, on n'a pas besoin d'avoir des figures d'auteurs et d'autrices bien identifiées. Et même les jugements esthétiques qu'on peut avoir quand on étudie les lettres, on est très formé à faire de la stylistique, à aimer la complexité, à aimer la complexité des images, des métaphores, de la syntaxe. Et on a parfois inconsciemment le réflexe de rabattre la simplicité de la langue sur finalement la simplicité des enjeux. Et alors moi, ce que j'ai découvert en enseignant sur les contes, c'est à quel point les contes étaient inépuisables. À la fois inépuisables parce que les corpus de tradition orale sont immenses et qu'on n'en a jamais fait le tour, et que d'ailleurs pour une comparatiste, ça suppose aussi voilà, dans quelle langue, quelle traduction, ça pose plein de questions passionnantes. Mais aussi des corpus inépuisables parce qu'on n'en a jamais fait le tour. Et c'est vrai que je me souviens que la première fois que je suis allée voir Bernadette dans son bureau, elle m'avait dit moi le conte, voilà, je suis à la maison, hein, donc je n'écris pas mes cours, et donc ce que je fais, c'est qu'on compare des versions et on les analyse. Alors, je suis d'accord, mais j'étais très inquiète, c'est-à-dire que je me disais, comparons des versions du Petit Chaperon Rouge, entendu, mais une fois qu'on aura dit qu'il y a un sens sexuel sous-jacent, comment tenir 2 heures? Et à vrai dire, aujourd'hui, c'est plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que comment arriver à cantonner toutes les analyses possibles des différentes versions du Petit Chaperon Rouge. Enfin, donc c'est comment cantonner toutes ces analyses dans le temps imparti.
Thank you.
Est-ce qu'il y a un style oral spécifique? Dans le milieu du conte, on dit souvent ça. C'est oral ou c'est très écrit. Ouh là là, ça sonne écrit, comme c'est très oral, voilà. Mais à la suite des spécialistes d'ethnopoétique comme Dale Hines, Inès Casalas rebat les cartes et montre qu'il n'y a pas dans le langage un style oral et un style écrit, et que le partage entre l'art du conteur et celui de l'écrivain ne se situe pas vraiment là.
Il y a deux personnages de marraines fées, qui sont Bernadette Bricout et Florence Dupont, dans des styles très différents. Mais il y a aussi des collègues, dont Cyril Vettorato, avec qui j'échange beaucoup, et toutes les personnes qui gravitent autour de l'ethnopoétique. Et c'est vrai que c'est un des apports qu'ils et elles m'ont fait connaître, à savoir celui des ethnopoéticiens qui montrent qu'il n'y a absolument pas de spécificité de style oral. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui est spécifique à l'oral, c'est l'engagement du corps, de la voix, c'est la dimension de la performance, c'est le contexte, c'est le rapport avec l'auditoire, c'est le moment où on raconte, le contexte culturel dans lequel on raconte. Évidemment, tout ça, c'est un immense champ et c'est spécifique à l'oralité. Mais pour ce qui est vraiment du langage verbal, un spécialiste ethnopoétique comme Dale Hines montre qu'il n'y a pas un style oral et un style écrit, parce que par exemple les conteuses et conteurs vont me dire oui, mais par exemple dans l'oralité, dans le langage oral, on interpelle le public. Oui, mais à l'écrit aussi, on peut y avoir des adresses. Je pense à Jacques le Fataliste du Diderot, il y a sans cesse, voilà, le lecteur est sans cesse interpellé. Où on va me dire, oui, mais la syntaxe est très simple. Oui, mais il peut y avoir une syntaxe très simple à l'écrit. On va me dire, oui, mais il y a des répétitions. Mais il peut y avoir beaucoup de répétitions à l'écrit. Et en fait, le langage verbal tout ce dont on pense souvent que c'est spécifique à l'oralité, à vrai dire, peut tout à fait concerner aussi le langage verbal écrit. Mais ce que propose Dale Hines, c'est plutôt de dire qu'il y a des styles de communication différents et qu'ils peuvent être communs à l'écrit et à l'oral. Donc ça, c'est vraiment l'approche ethnopoétique qui est très stimulante. Et puis après, il y a aussi toute l'histoire littéraire, c'est-à-dire que un des apports de l'ethnopoétique, c'est vraiment de revoir cette histoire littéraire en arrêtant de mythifier l'oralité comme une préhistoire de la vraie littérature qui existerait à partir du moment où il y aurait des écrivains, des écrivaines, qui auraient des droits d'auteur, qui auraient... En fait, tout ça, c'est une conception de la littérature très moderne, très récente, qui s'invente à partir, mettons, du XVIIIe siècle. Mais évidemment que les circulations entre écrit et oral sont très très anciennes, à la fois quand on regarde les premières versions écrites des contes que l'on trouve, mais quand on voit aussi Marie de France écrit ses laits à partir de répertoires oraux, inversement, les personnes qui racontent à l'oral ont été influencées par la traduction des Mille et Une Nuits, même quand elles ne savent pas lire et écrire, qu'il y a des images qui ont circulé par les colporteurs, et qu'il y a aussi beaucoup de conteurs et de conteuses dits de tradition orale qui parfois savaient lire, et avaient des carnets, avaient aussi des façons de noter les choses. Donc ce ne sont pas des univers étanches.
On a parfois tendance à le perdre de vue, que notre source, elle est quand même écrite.
Oui, et puis on c'est vrai qu'on mythifie beaucoup la grande nuit de l'oralité, comme si on avait des contenus immuables qui passaient, qui étaient transmis de façon verticale dans des communautés, des collectifs dont les individus seraient absents. Or, ce que montrent des anthropologues comme Marie-Louise Ténez, comme Ursula Baumgart, c'est que des individualités créatrices existent, sont bel et bien présentes dans les traditions orales, et que tout le travail que font aujourd'hui les conteuses et les conteurs professionnels à partir de sources écrites, il est en partie fait par des individualités conteuses qui vont avoir constitué leur répertoire, qui vont modifier leur version en fonction des réactions de l'auditoire, en fonction des enjeux présents, en fonction des crises historiques traversées. Et que c'est absolument pas une sorte d'image d'épinal immobile, et que même dans les communautés rurales, il y a beaucoup de circulation, il y a du travail nomade, il y a des gens qui mendient, il y a des gens qui changent de métier, qui, selon les saisons, se déplacent. Je trouve riche de se dire que le mouvement caractérise aussi très bien les traditions orales.
C'est pas pour dire, en compagnie de Inès Casalas, interviewée par Karine Mazel. Il est question de pratique du conte avec les ateliers pour l'oral, où l'on travaille théâtre, chanson, lecture à voix haute, poésie, rhétorique et aussi le conte.
C'est l'occasion de parler donc des deux pieds sur lesquels marche le cours de lecture du conte, à savoir un cours d'histoire, de théorie, de comparaison de versions, et puis un atelier pour l'oral. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux, parce que, évidemment, le conte, c'est d'abord quand même une pratique.
Oui, les contes sont présents de deux manières dans les enseignements. Il y a effectivement le cours qui était donc celui de Bernadette Bricout, qui s'appelle « Lecture du conte » où on compare des versions de contes. Et je reviens brièvement là-dessus pour dire que je me suis aussi... j'ai été amenée petit à petit à étudier des contes dans des cours qui ne portent pas spécifiquement sur les contes. Et ça a été aussi quelque chose de très riche pour moi, à savoir que... Si je fais par exemple un séminaire, là comme cette année, un séminaire de master sur les vivants et les morts, eh bien on va lire des textes littéraires canoniques de grands auteurs et grandes autrices, on va lire des extraits de sciences humaines, mais on va aussi lire des contes de tradition orale que j'ai trouvés dans des collectages d'anthropologues. Et ça, je trouve ça vraiment important de se dire que les contes, on n'en analyse pas seulement dans les cours dédiés au conte. Ça, c'est déjà, voilà, pour ce qui est de l'analyse, ça m'importait d'apporter cette précision. Et alors maintenant, pour en venir effectivement à l'aventure de l'atelier, eh bien, toutes les peurs des étudiantes et des étudiants ont été les miennes, et donc j'ai dû les traverser aussi. Mais je me suis dit qu'on ne réfléchissait jamais aussi bien à quelque chose que quand on le pratiquait aussi. Et que donc analyser les contes ne pouvait que s'enrichir de la pratique. Alors ça a été permis dans ma fac parce qu'il y a des collègues, Maria Manca et Jean-François Guénoc, qui ont lancé les ateliers pour l'oral, qui se sont dit... on va faire travailler l'oral à tous les étudiantes et les étudiants de lettres modernes. Parce qu'après tout, en prépa, il y a cette possibilité de passer d'école, et ça coûte beaucoup d'argent, mais pourquoi nous, les étudiantes et étudiants de la fac, n'auraient pas cette chance-là aussi? Alors, dans un esprit différent, puisqu'on ne prépare pas de concours en licence, mais on s'est dit que voilà, il y avait ces ateliers. Et donc, ces ateliers portent sur des... Il y a un atelier de création radiophonique, un atelier de lecture de la poésie à voix haute, il y a un atelier de théâtre, il y a un atelier chanson, il y a un atelier improvisation, il y a un atelier poésie, il y a un atelier rhétorique. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas un atelier sur les contes? Et donc ça a été pour moi l'occasion de faire quelques stages, et notamment un stage qui a été très marquant avec Henri Gougaud dans les Corbières en 2019. Et puis ensuite, bah, un stage avec toi, Karine Mazel, quelques stages ici et là. Mais disons que ça a vraiment changé ma posture d'enseignante. Parce que justement, dans cet atelier, j'arrive en disant que je ne suis pas professionnelle. Et finalement, ça horizontalise beaucoup les rapports. C'est-à-dire que je commence à... On partage au début des anecdotes qui ne sont pas des contes. On partage ensuite des devinettes, des proverbes, des histoires drôles. Et puis petit à petit, on arrive aux contes merveilleux. Et pour moi, eh bien, me présenter comme ça en position de non-maîtrise, eh bien, c'est quelque chose de très important. Parce que... finalement, c'est une des choses que j'ai apprises avec Henri Gougaud. On compte avec ce qu'on est et on raconte avec la personne qu'on est. Et donc, cette vulnérabilité, mais c'est pas seulement de la fragilité, c'est aussi cette façon d'être, cette musique, cette voix, cette façon de bouger, d'avoir des gestes, eh bien, c'est quelque chose, finalement, qui va vraiment... qui est au cœur de l'atelier. Et ce que je peux dire sur l'autocensure aussi des jeunes gens qui sont dans cet atelier, porte parfois aussi sur l'accent. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais moi, j'ai un accent. » Et alors, ben voilà, c'est l'occasion de dire mais que tout le monde a un accent, y compris les personnes qui prétendent qu'elles n'en ont pas. Et que ce qui peut être, ce qui est d'abord perçu par les étudiantes et les étudiants comme parfois un handicap, c'est-à-dire, ben moi j'ai un accent, je viens d'Amérique du Sud ou de telle région et on va moins me comprendre, ou il faudrait que je singe un accent voilà, bourgeois, blanc, parisien, intramuros. Eh bien, en fait, ça devient très concret, quoi, d'un seul coup. L'idée que on compte avec ce qu'on est et que la musique qu'on a, ce qu'on porte en soi, au contraire, ça va devenir une signature, ça va devenir une singularité, ça va devenir une couleur. Du récit qu'on choisit de partager. Et ça devient une force.
La question de nos modes de relation au vivant devient cruciale en ces temps d'extinction de masse d'espèces vivantes. Inès se rappelle de son émerveillement d'enfant, écoutant des contes qui donnaient comme plus de présence au milieu familier. Une manière de défendre les lieux, les territoires, les êtres vivants et de retisser le lien sensible entre l'humain et son environnement. C'est pas pour dire, avec Inès Casalas.
J'ai le sentiment que précisément, on est dans un cadre universitaire et les jeunes ne s'attendent pas à devoir s'engager subjectivement.
Oui, effectivement, cette subjectivité, elle est en train d'être relégitimée à, l'université. À la fois dans l'analyse, mais donc aussi dans la pratique. Et ce que je peux constater au fil des années, c'est à quel point tout ce qu'on est censé effacer quand on est étudiante et étudiant, eh bien, au contraire, on va être amené, via les comptes, à pouvoir au contraire l'affirmer. Et à pouvoir dire ça fait partie de moi et je me construis avec et je le fais dialoguer avec d'autres répertoires. Moi, ça me frappe à quel point les cours sur les comptes rebattent les cartes. C'est-à-dire que soudain, ce qui apparaissait comme une faiblesse devient... On peut arriver en atelier et choisir de partager un conte d'un grand-oncle en Tunisie et qu'on a entendu dans une autre langue, en arabe, et qu'on n'a pas en version écrite. Et d'un seul coup, ça devient un jeu de traduction, de langage, et puis il y a une force dans la façon de raconter que n'ont pas parfois d'autres étudiantes et étudiants qui sont plutôt... très scolaire, très dans les clous, mais qui d'un seul coup se découvre au contraire démuni par rapport à d'autres. Et ça, c'est vraiment fort. Je le vois aussi dans les cours d'analyse d'ailleurs, parce que en fait, comme les textes sont très simples d'accès, mais très riches et très complexes dans leurs enjeux, eh bien parfois on a des analyses extrêmement pertinentes d'une grande acuité qui arrivent, qui sont formulées de la part de personnes qui dont les notes n'étaient pas forcément les plus remarquables dans d'autres disciplines ou le semestre précédent je suis très reconnaissante au compte de produire ça parce que ça m'amène à reconsidérer mes pratiques pédagogiques, mes façons d'évaluer, et mes façons de considérer aussi les corpus qu'on étudie. Et je trouve aussi politiquement très important aujourd'hui de relégitimer les cultures orales, c'est-à-dire que les personnes qu'on présente sempiternellement comme... devant s'intégrer, alors même que parfois ça fait plusieurs générations qu'on a des familles qu'on qualifie encore d'immigrées alors qu'elles sont là depuis très très longtemps, ou parfois pas, mais en tout cas, ce sont des personnes qu'on présente souvent, des familles qu'on présente souvent comme n'ayant pas de bagage culturel, n'ayant pas de ressources, n'ayant pas, comme des personnes... démunis, qui auraient tout à apprendre de la culture française, que les institutions telles l'école, les maisons de la culture, les MJC, les théâtres, les institutions légitimes auraient à apporter. Et vraiment, mais de quoi se prive-t-on quand on a un regard pareil ? Et en fait, avec les contes, ça bouscule vraiment... cette vision très descendante de la culture, très condescendante et très hiérarchique. Et au contraire, c'est plutôt vraiment... qu'a-t-on oublié et que ne voit-on pas lorsqu'on se prive des cultures dites populaires, des cultures orales. Et en tant qu'universitaire... oui, ça amène à réfléchir autrement à la position qu'on a.
on va remonter le temps de cette émission. Et moi, je me souviens que il y avait dans ton expérience d'enfance intime quelque chose qui est autour de la littérature, bien sûr, des mots, des images, de la relation avec tes parents, mais aussi très fort, l'autre pied, c'est de la relation à la nature, c'est-à-dire au vivant, à la manière dont ces récits ont rendu habités les lieux qui t'entouraient, et que peut-être ce dialogue-là a induit un champ de recherche dans lequel tu t'es spécialisé ces dernières années sur l'écologie.
L'urgence de la crise climatique est telle que je conçois maintenant difficilement de ne pas tricoter, de ne pas articuler littérature et écologie. Et l'oralité là-dedans, finalement, elle fait continuité parce que c'est vrai que je parlais du lien aux images, je pourrais aussi parler du lien aux chansons, parce que donc il y avait des instruments de musique du monde entier chez moi, et on chantait beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'il y avait des contes dans les chansons, c'est-à-dire que j'étais très marquée par des chansons comme, je sais pas, Derrière chez nous, il y a un étang, Trois beaux canards s'y vont baignant, ou des chansons sur les fleurs, sur les arbres, ou je sais pas, une chanson sur qui s'appelle Je file, c'est sur une femme qui file avec un chevalier, etc. Bon. Et disons que là, je pense qu'il y a un continuum entre la voix qui raconte les contes, même si c'était une lecture à voix haute, mais la voix qui, où il y a une musicalité particulière, une mélodie particulière. La voix qui chante, et aussi la dimension vibratoire qu'il y a à être dans une forêt, et à écouter des animaux, à percevoir la rivière. Et finalement, le conte, pour moi, c'est ce lieu qui est relié à ce temps d'avant, ce temps où les bêtes et les hommes, les humains parlaient la même langue, les bêtes, les plantes, les humains. C'est aussi une expérience très concrète qu'on fait quand on écoute des contes et ce moment où il y a les formulettes, où il y a les onomatopées. Et je pense que ça... Oui, ça... Pour le dire brièvement, c'est cette dimension vibratoire qui pour moi relie ces univers, et que j'essaie aussi de faire de rendre présente dans mes cours, parce que maintenant, outre le fait que je mets des contes et des mythes de tradition orale dans des cours de littérature comparée qui ne sont pas nécessairement des cours sur les contes et les mythes. Je mets aussi des chansons et j'évoque aussi des enjeux écologiques. Donc tout ça s'entrelace de façon assez heureuse.
Ce que je trouve très stimulant, c'est de constater qu'aujourd'hui, ce mouvement de philosophes, anthropologues, auteurs, autrices, rejoint quelque chose d'un savoir que les contes détiennent. Et que c'est l'occasion pour nous de relier aussi ça, et c'est ce que tu fais dans ton travail, entre cette parole très ancienne et ce mouvement très moderne, enfin très nouveau, auquel on assiste, de réenvisager nos liens avec le vivant. Donc on se retrouvera une prochaine fois pour aller plus avant dans ton travail sur les liens entre contes et écologie. Soutenu par tous ces chercheurs et chercheuses en anthropologie, philosophie et ta réflexion. À bientôt. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
<t'-> C'est pas pour dire, mais c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci, merci infiniment à Inès Casalas pour sa voix, sa présence et ce regard si juste qu'elle porte sur le monde et sur le conte comme un art salvateur. Entre poésie et humanité, elle nous rappelle que le conte, c'est avant tout une manière de relier les gens, de dire et redonner sens et souffle à la vie. Merci également à Karine Mazel pour la finesse de son entretien et pour avoir su ouvrir cet espace de parole et d'écoute. Si cette émission vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous, bien sûr, et retrouver aussi toutes les autres sur le site internet. Elles sont plus de 150 à ce jour. Et vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de C'est pas pour dire avec vos impressions, vos idées, vos coups de cœur. À bientôt. I still have a dream.